Vous écoutez RTL. RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Florence Cohen sur RTL.
Et ce soir, l'écrivain Denis Tillinac. Bonsoir Denis.
Bonsoir.
Le journaliste Yvan Levaille. Bonsoir.
Bonsoir.
Ainsi que Virginie Luguet, chef adjointe du service politique de Paris Match. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Le coup de rabot sur les aides personnalisées au logement. Ce coup de rabot fait grincer des dents. À partir d'octobre, ces aides seront diminuées de 5 euros par mois. Une économie de près de 400 millions d'euros par an. 6 millions et demi de foyers sont concernés. Voilà pour les chiffres. De gauche comme de droite, ça hurle hein, en disant que le même président Macron, en même temps, baisse les APL et assouplit l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, l'impôt sur la fortune des plus aisés. Alors, question, Emmanuel Macron est-il le président des riches, Yvan Levaille ?
Oui, écoutez, quand on dit ça, j'adore ces formules.
C'est un raccourci. J'assume.
Incroyable.
J'assume.
Il y a tellement de gens qui voudraient qu'effectivement, il soit le président des riches. Ce serait une manière de dire « Ah, on a cru qu'il était socialiste, mais il n'est pas socialiste. »
C'est pas aussi simple que ça.
Non, je crois que c'est plus simple que ça. La Cour des comptes a fait ses comptes, après tout c'est son boulot, et il lui manque 9 milliards pour le prochain budget. Donc on taille, on rogne, et on le fait selon un principe, pardon, mais que je trouve, je vais l'appeler le principe de Bercy, parce que Bercy l'a appliqué pendant des années et continue de le faire, même avec Macron. Mmh. C'est-à-dire, au lieu de faire une réforme fiscale qui nous est promise depuis un demi-siècle, on dit, vous allez voir, on va faire une grande réforme fiscale pour que les impôts soient plus justes, etc.
Bon,
au nom de l'égalité, les Français adorent la justice. Au lieu de faire ça, on fait du grignotage selon le principe, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Alors, si vous taxez les riches, c'est embêtant de taxer les riches parce qu'ils sont puissants, ils existent, ils sont bien représentés dans les assemblées, ils sont bien représentés au pouvoir dans tous les cas de figure, et alors eux, on ne taille pas. Et quand on doit tailler, eh ben on taille, on rabote les têtes qui ont été rabotées, c'est-à-dire vous gagnez 1000 euros par mois, et on dit, allez, on va lui barboter 5 euros dans la poche. Et puis alors, comme c'est à Bercy, et que ce sont des gens qui sont à 6000, 7000, 8000 euros, enfin, et que les députés sont, et je suis gentil, 10000, 15000, etc., ces gens-là, un billet de 5 euros, vous savez ce qu'ils en font ? C'est le pourboire au restaurant. Alors, mais ils ne se rendent pas compte que pour la femme toute seule, que pour le jeune étudiant, qui ne peut pas payer sa chambre et sa cantine, et le bullier
ça d'ailleurs, devient énorme.
5 euros, c'est beaucoup.
Et justement, Virginie Legay, il disait, Yvan Levaille, voilà, on taille, on coupe. Là, le symbole, est-ce qu'il n'est pas mal ciblé ? Est-ce qu'il n'est pas mal choisi ? Ne serait-ce que pour le symbole, justement.
Mais ils n'ont pas le temps de cibler et de choisir. Ils ont mis en scène la découverte du budget insincère et du trou qu'ils ont fait mine de trouver, alors qu'Emmanuel Macron était, si mes souvenirs sont exacts, à Bercy il y a encore quelques mois. Donc ils ont mis ça en scène pour expliquer qu'il allait vraiment falloir peut-être être encore plus sévère que prévu, et puis le faire très vite, parce que là on est en train de boucler le budget 2017. Donc là ils y vont, j'allais dire à la hache, et partout où ils peuvent, ils rabotent. Donc ça tombe où ça tombe sur qui ça tombe. Effectivement, parmi ceux qui touchent l'APL, il y en a qui pourraient ne pas la toucher, mais il y en a qui en ont un besoin vital. Il y en a qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et là, on ne fait pas de distinguo. Voilà, donc je crois qu'on n'en est plus à faire de sentiments. Et ce qui, à mon avis, va être le plus problématique assez vite, c'est que ce genre de mesures qui s'appliquent va se heurter aussi au souci de... Bon, mais c'est très sympathique ça, mais il n'y a pas de réforme de structure. C'est exactement ce que disait Yvan Levaille. Mmh. Quand il a parlé aux collectivités locales la semaine dernière, il n'a pas du tout annoncé de réforme de structure. Le millefeuille, le fameux millefeuille administratif qui coûte si cher en France, avec toutes ces collectivités qui se superposent et qui se doublonnent et qui dépensent chaque année des milliards et des milliards, il n'a pas dit un mot. Il a dit, un pacte girondin, vous verrez, ça va très bien se passer, on va trouver des petites solutions intelligentes. Donc ça va être encore des petites économies, mais ça ne va pas être des choses de fond. Quand là, quand là, ils parlent de l'APL, au lieu de dire, bon, attendez, l'APL, on va là, peut-être, la subventionner aux revenus, on va la subventionner aux parents, parce que finalement, il y a des enfants, des étudiants qui touchent l'APL, et les parents pourraient très, très, très bien entretenir leurs enfants. Il y en a d'autres pour qui c'est extrêmement utile. Donc là, il y a peut-être une différence à faire entre tout ça. Mais là, ils agissent sous le coup de la précipitation, j'allais dire, sans distinguo, en avant-marche, boum. Et ils mécontentent finalement tout le monde. On voit bien les 10 points perdus par Emmanuel Macron, il y a des gens à droite qui sont déçus, des gens à gauche qui sont déçus, selon sur qui ça tombe. Et là, c'est là où c'est le problème, le bas va blesser. C'est qu'il va finir par mécontenter tout le monde.
Denis Tillinac.
Oui, bah pour répondre à votre question, et c'est difficile, au vu des élections présidentielles, de ne pas dire que c'est le président des riches. Les pauvres peu diplômés ont voté Le Pen, les pauvres un peu plus diplômés ont voté plutôt Mélenchon, les classes moyennes plutôt Fillon, et disons, les favorisés ont voté. Donc pour votre question, c'est sûr qu'il apparaît de plus en plus pour ce qu'il est. Il est le candidat de l'établissement, il est le candidat des puissances d'argent, il est le candidat des riches, c'est sûr. Sociologiquement, ça fait
non,
pas un pli.
Non.
Bon, alors
faut
voter
Par contre, je ne modérerai pas ce propos.
C'est pas vrai. Alors, je ne modérerai pas ce propos, parce que je dirais, vous savez, François Mauriac disait de Laniel, cet homme sans le lingot, ce régime sans le lingot aussi, ou l'euro. Par contre, je modérerai un peu, bon, il faut faire des économies, 5 euros, c'est un apéro, hein. Bon, je veux bien qu'il y ait des gens très, très pauvres.
Dans l'absolu, ouais, pas forcément pour les
étudiants. Je parle des étudiants.
Je parle de ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté. Dont les parents touchent la PL et qui devraient ne pas le toucher.
Oui, oui, c'est ce qu'on a
donc,
dit.
Bon,
c'est vrai.
Il y a les deux autres.
Bon, il y a les deux autres, mais il y a toujours, à chaque fois, il y a des effets pervers. Bon, 5 euros, peu de Français ne peuvent pas se permettre de se priver d'un apéro par mois.
Si.
Yvan.
Eh ben, non, je suis.
Moi, je crois que vous sous-estimez le nombre de chômeurs, le nombre de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté.
Pardon de dire ça, mais il y a un homme. Un homme.
Pas dans le poujadisme.
Même pour Denis Tillinac, ce devrait être une icône. C'est Louis Gallois. Cet homme est parfaitement honnête.
Oui, j'ai bien vu ça.
Il est parfaitement honnête.
Ancien président de la SNCF qui s'occupe aussi des solidarités.
Il dit, moi ça m'intéresse, c'est pas les politiciens. Les politiciens ils disent, c'est pas bien Macron, oui, alors c'est le président des riches, il sent le lingot. Non, Macron ne sent pas le lingot. Il y en a un qui ne sent pas le lingot.
Qui est
Gallois, et Gallois dit, on frappe avec cette façon de faire, 60% de gens qui sont pauvres. Et il y a des gens qui sont pauvres. Il y a des gens pour qui un billet de 5 euros, mais si c'est vrai, ça c'est un raisonnement d'énarque à Bercy.
Non.
C'est que nous, voilà, Tillinac, je ne veux pas le dénoncer, il fume. Trop d'ailleurs.
Il l'assume, pour le coup.
Je suis soucieux de sa santé. Et alors, effectivement, il dit, bon, ça va coûter un paquet de cigarettes à l'étudiant qui fume aussi. Mais c'est plus grave que ça. La femme seule, et on ne parle que des APL, mais on oublie les ALS, qui est l'impôt de solidarité.
Et les ALF. Donc, les trois, il y en a trois.
Il y a un maquis des aides au logement qui permettent, ça coûte 18 millions d'euros et demi en tout, qui permettent à des gens qui n'auraient pas de logement de se loger. Et on leur pique 5 euros. C'est moche.
18 milliards en tout. J'ai une question pour vous, Virginie Leguet. Qu'est-ce que vous pensez de la polémique ? C'est pas nous, c'est l'ancien gouvernement qui dit mais nous on l'avait même pas envisagé. C'est eux. C'est de bonne guerre ou c'est
Pour le coup, en tout cas, je dirais que c'est de la vieille politique parce que à chaque fois on nous fait le coup de l'héritage et ceux d'avant. Ils nous ont laissé des trous qu'on n'avait pas vus. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que je rappelais. Il y avait déjà eu le budget 2017 qui était insincère dans lequel on découvrait un énorme trou de 8 milliards. Et là on dit ah non mais c'est les autres. Les autres disent mais pas du tout. C'était pas du tout dans les cartons, c'était pas du tout prévu. Donc je trouve que là, pour quelqu'un qui a 39 ans, qui voulait tout dégommer, qui a tout dégommé et qui a envoyé baldinguer la gauche, la droite, tout le monde et qui occupe tout l'espace, c'est pas très chic d'en revenir à des vieilles ficelles.
Bon, bah justement, parlons-en tout de suite de tout dégommer. À propos de tout dégommer, la loi sur la moralisation de la vie publique est en discussion depuis cet après-midi à l'Assemblée. Elle a déjà été adoptée au Sénat. C'est pas vraiment un long fleuve tranquille au sein de La République En Marche. Des députés râlent contre la suppression de la réserve parlementaire qui leur permet de subventionner des collectivités et des associations. Ils pestent contre la fin de l'indemnité représentative de frais de mandat, 6 000 euros mensuels dont ils font ce qu'ils veulent. Et des élus ont voté en commission le casier judiciaire vierge obligatoire pour les ministres. Leur président de groupe, Richard Ferrand, a déposé un amendement contre. Ça tangue, hein, donc. La majorité, il est sous le coup d'une affaire, on est bien d'accord. La majorité, est-ce qu'elle a, Denis Tillina, qu'est-ce qu'elle a beaucoup à perdre, la majorité, dans ce texte et dans ce débat?
Tout le monde a à y perdre, et la démocratie française a à y perdre.
Carrément.
Si on continue vraiment à agir avec cette espèce d'obsession de la transparence, d'ailleurs à nous scandinaviser, on va avoir une classe politique de plus en plus minable. On a déjà de législature en législature des députés d'un niveau inférieur, parce que ceux qui veulent vivre mieux, ils vont ailleurs. Ceux qui avant faisaient de la politique n'en font plus. Les meilleurs de l'ENA ne vont plus faire de politique. Avant, ils en faisaient parce que il y a tellement de différentiels par rapport au privé. Autant je suis d'accord sur la suppression de la réserve parlementaire. En tout cas, distribuer des subventions autrement que les filets députés par députés, parce que ça c'est du clientisme de bas étage. Les mecs, ils arrosent les maires de leur parti et puis. Donc ça c'est normal. Mais par contre, dire qu'on fasse attention, qu'on leur laisse un peu de latitude, les frais de représentation, ils en ont besoin, parce que maintenant ils ne peuvent plus être maires. Quand vous êtes député-maire, la coupe que vous remettez à la course cycliste le dimanche, c'est la mairie qui le paye. Maintenant, quand il est député seul, c'est le député qui paye de sa poche. Et ça, je peux vous dire, pour un député de province moyen, il y laisse, on en a connu dans le temps, qui y laissait leur fortune.
Alors, vous m'avez donné votre analyse sur le projet de loi soi-même. J'ai envie de vous entendre sur la majorité qui tanque sévèrement là-dessus. Ça râle de tous les côtés. Ça va se fissurer, La République En Marche, sur ce texte, Yvan Levaille ?
Oui, parce qu'il y a des frondeurs. La fronde, là, ils ont l'impression que... À la limite, comme tous les corps de métier de ce pays, dès qu'on touche à leur bas de laine ou à leur salaire, ils grognent. Alors, est-ce que ce sont des grognards est-ce qu'ils vont se reprendre? Ou est-ce qu'ils sont sur la ligne de Denis Tillina? Moi, comment dire? Il a raison, Denis, sur la réserve parlementaire, c'est scandaleux, c'est du clientélisme, parce que c'est de l'argent qui est remis à discrétion et avec lequel le député peut soigner, il peut soigner ses électeurs. Bon, c'est franchement pas très bien. Sur le désir de transparence, pourquoi les députés passeraient au travers, je vais pas donner la liste, mais on a tous en tête une liste de noms de très honorables parlementaires qui ont à voir, je m'arrête, avec le juge d'instruction. Alors on dit, oui, laissez faire la justice, attendez, je suis présumé coupable. Mais la liste des gens qui vraiment ont mis les deux mains dans la caisse, tous les Français la connaissent. Je dis, c'est pas tous les députés, mais c'est un certain nombre. Donc, qu'il y ait un désir de transparence, c'est une bonne chose. Moi, je regrette autre chose. Ils sont 577, les députés. On veut faire des économies. Alors, n'allons pas chercher jusqu'au dernier sou dans leur poche. Je modère mon propos. Et puis, demandons-nous, je l'ai fait avec Paul Quillès il y a 15 ans. On a fait un livre il y a 15 ans dans lequel on disait, et lui il était plus courageux que moi, on disait pourquoi 577 députés ? On en aurait 300, ça suffirait bien.
Virginie
Le Guin, on a un moyen de faire des économies.
Mais cher Yvan, c'est ce que Emmanuel Macron a rappelé. Il a dit on va supprimer un tiers des parlementaires. Il l'a dit.
Mais qui se dépêche ?
Oui, voilà, qui se dépêche. Mais moi je suis un peu partagée entre vous deux. Je comprends que ceux qui se lancent dans la vie politique se disent. Je me lance dans une vie pas très rémunératrice. Dans 15 ans, mes copains qui auront fait les mêmes études que moi, ils vont avoir des revenus qui ne seront pas les miens. Et on a bien vu, quand on regarde en arrière la campagne présidentielle, toute la difficulté de ce que représentait le système Fillon. Je ne reprends pas le détail. Mais finalement, François Fillon, il bénéficiait en plus de ce qu'il déclarait comme assistant parlementaire, ses enfants, sa femme. Et il s'en servait comme d'un revenu annexe et c'était considéré comme une pratique assez partagée parmi les autres députés. Donc on voit bien qu'ils ont tous besoin d'argent. Donc il y en aura moins, on peut peut-être penser qu'ils seraient mieux payés. Pour autant, je ne vois pas pourquoi ils ont ce qu'on appelle appellent exactement une IRFM qui sert à leur frais. Et je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas soumis, comme vous, comme moi, comme tout le monde, à des notes de frais. Je ne vois pas pourquoi. Alors là, pour le coup, soit ils mettent directement dans leur poche et personne ne leur demande rien, soit ils ont vraiment des déjeuners, des représentations, ils invitent des gens. Pourquoi ils ne font pas des notes de frais? C'est le béaba du béaba. Et en plus, je rappellerai l'Assemblée nationale. Et je rappellerai quand même à ces chers députés que là, moi, je suis carrément étonnée parce que sur les 577, il y en a, je crois, 424 qui sont des nouveaux députés. Mmh. Et les nouveaux députés, moi, je pensais qu'ils se diraient « Ah, c'est super, on va y aller, on va faire des vraies réformes, on va démarrer à zéro. »
Tout à l'heure, Henri. Ils ont le même réflexe que les autres.
Ils ont exactement comme les autres. Ils disent « Ah, ben merde, maintenant que je suis député, ça m'amuse
un peu. » Ça n'a rien changé, la République en marche.
En tout cas, les 424, ils ne sont pas plus moralisateurs que les anciens qui ont été dégagés tout au long de la vie.
Ils ont été moralisateurs pendant la campagne.
Oui, et maintenant que les anciens ont été dégagés et qu'ils sont là, ils se disent « Ah bon, c'est pas si mal la place. »
Nous voilà bien désabusés. On va se retrouver dans un petit instant pour constater que Florian Philippot voudrait parler à Jean-Luc Mélenchon.
Il fallait pas se faire d'illusions.
On refait le monde dans RTL Soir
avec Florence Cohen.
Ça se taquine joyeusement dans ce studio entre Virginie Legay, Yvan Levaille et Denis Tillinac.
Pas vous, mais vous êtes
en face, voilà, c'est différent. Bon, Florian Philippot veut prendre un café avec Laurent Wauquiez des Républicains et pourquoi pas, dit-il, avec Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Le vice-président du Front National veut discuter, voir ce qu'il oppose aux autres, parce que, dit-il, le FN doit continuer à s'élargir aux patriotes de droite et aux patriotes de gauche. Fin de citation. Bon, c'est d'abord la main tendue à Jean-Luc Mélenchon qui m'intéresse. La France Insoumise a déjà décliné l'offre du café facho, je cite là aussi. Ces deux extrêmes-là, Philippot, Mélenchon, ont-ils finalement quelque chose à se dire, Yvan Levaille ?
Oui, ils pourraient très bien se dire quelque chose. C'est bien de dialoguer. D'ailleurs, la buvette du Parlement, tout le monde ne va pas à la buvette. C'est un endroit qui est fait pour ça. Et moi, j'ai trouvé toujours des gens... Je ne m'attendais pas à les voir discuter, et ils discutaient. Là aussi, les couples de la buvette...
Et alors, qu'est-ce qu'ils auraient de commun, quitte à discuter ?
Sont des couples incroyables, des gens qui se comprennent parfaitement. Ils sont là, ils boivent, et puis ils disent « Oui, vous avez raison, mon cher », ils dealent, ils font des tas de choses ensemble. Mais là, vraiment, je pense que Florian Philippot se met le doigt dans l'œil... Il faut qu'il fasse un dîner avec Wauquiez, hein, et puis un bon dîner agréable, un bon dîner dans un bon restaurant, bien chic. Mais Mélenchon, il ne l'aura pas, quoi, parce que Mélenchon ne va pas aller dîner avec Philippot. Je vais vous dire pourquoi, d'ailleurs. Parce que ça donnerait trop à penser aux électeurs des uns, et de l'un et de l'autre.
D'accord, ça pourrait créer finalement un rapprochement du côté des électeurs.
Oui, mais moi, je suis prêt à les inviter tous les deux chez moi parce que la conversation serait intéressante.
Vous arbitrerez. Denis Tillinac, qu'est-ce que c'est que cette idée ?
C'est probablement une conséquence des conflits assez violents qui agitent le Front National en ce moment. Bon, il y a toute une frange des dirigeants autour de Madame Le Pen et peut-être de la nièce qui souhaiterait pour moi un rapprochement avec Wauquiez, c'est sûr. Il aura lieu, il n'aura pas lieu, il y a encore du chemin à faire, il aura peut-être lieu, ça dépendra du mode de scrutin, ça dépendra de beaucoup de choses. Hein ? Bon,
Mélenchon, tandis
que Philippot, lui, tient sur sa ligne, sortie de l'euro, et on a autant à gagner à gauche qu'à droite, donc il tend la double main. Donc c'est un peu pour doubler Marine Le Pen. Moi, on est dans un conflit, plus ou moins larvé, mais enfin, c'est clair, il y a deux lignes dans ce parti. Bon, Mélenchon et Philippot, sur le plan économique, je veux dire, tiennent un discours extrêmement proche, ce qui rappelle celui de marché des années 70. Donc, ils auraient beaucoup de choses à dire sur un étatisme recentré, les nationalisations, un ouvriérisme. Ils auraient à se dire, bon, leurs électeurs sont ils sont en concurrence sur leur électorat. Et à part la question de l'immigration sur laquelle ils sont sur deux pôles extrêmes, ils ont à peu près l'euroscepticisme, certains souverainismes poussés à l'extrême. Ils ont à peu près tout en commun, sauf la question... Mais ça me rappelle les ligues d'extrême droite et l'extrême gauche révolutionnaire des années 20 et 30, mais ils étaient d'accord sur à peu près tout. Hein.
Donc,
des fois, ils manifestaient ensemble.
Il y a au moins un socle commun.
Mais moi, je me souviens d'un jeu qui avait été initié il y a quelques mois, où on avait mélangé des extraits de discours de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, à charge pour ceux qui écoutaient les extraits de savoir qui disait qui. Et bien, tout le monde s'est trompé. Ah ben non, et non seulement ça, mais tout le monde s'est trompé. Bah, évidemment, oui. Jean-Luc Mélenchon était furieux. Marine Le Pen l'était moins, mais Jean-Luc Mélenchon était furieux. Donc, Jean-Luc Mélenchon, il ne déjeunera jamais, ne prendra jamais de café avec Florian Philippot. Lui, il veut être le premier opposant à Emmanuel Macron. Il veut en aucun cas de rapprochement avec le Front National. Officiellement, il les aborde, même si c'est vrai que très souvent, leurs discours sont communs, mais ils détestent l'entendre, mais c'est quand même la vérité. Donc, il n'y aura pas de rapprochement ni officiel, ni officieux, ni personne. Quant à Wauquiez, je rappelle que c'est Marion Maréchal Le Pen qui, il y a quelques mois, avait dit « Oh, ben, il faudrait regarder vers la droite du côté de Laurent Wauquiez », parce que ça fait des mois que Marion Maréchal Le Pen dit « Il faut se rapprocher avec une partie de la droite ». Et donc, Florian Philippot, quand il fait ça, il essaye de la doubler, voilà, parce que ils sont, c'est ce que vous disiez, ils se détestent. Lui, il sent bien qu'il est un peu en difficulté, Florian Philippot. Le séminaire qui vient d'avoir lieu vendredi et samedi, il a quand même remis un petit peu à la fin du quinquennat l'histoire de la sortie de l'euro qui pour lui était prioritaire. Donc il perd du terrain. Donc il se dit, je perds du terrain sur ma ligne, je peux peut-être en gagner sur la ligne de Marion Maréchal Le Pen, qui est peut-être la rivale la plus intéressante aux yeux de nombreux militants et adhérents du Front National. S'appeler Le Pen, c'est un gros avantage par rapport à s'appeler Florian Philippot, où on reste éternellement, si je peux me permettre ce mot, qu'aiment beaucoup les gens du Front National, un étranger. Mais s'appeler Le Pen, c'est très intéressant. Donc, marcher sur les brisées de Marion Maréchal Le Pen, c'est un coup bas. Mais je peux vous dire, pour avoir eu la réponse de Laurent Wauquiez, que là, c'est hors de question. Ni café, ni thé, m'a-t-il
voilà
répondu.
Dit. Yvan Levaille, vous voulez ajouter?
Non, c'est parce que j'ai un désaccord que je veux exprimer rapidement avec Denis Tillinac. Parce que... Bon, il dit qu'il n'y a rien qui sépare Mélenchon.
Je n'ai pas dit qu'il n'y a rien qui sépare.
Et il y a peu de choses qui séparent Mélenchon de
l'immigration et le sécuritaire.
Bon, il y a l'immigration, etc. Non, moi je suis désolé. C'est depuis ces derniers mois et ces dernières années qu'on découvre, on a fait une découverte incroyable dans ce pays, les vieux éditorialistes. C'est que le Front National... Et le parti des pauvres, le défenseur des pauvres. Ah non, alors écoutez, faut pas nous raconter ça.
C'est eux qui votent
que
pour
les
lui.
Pauvres votent ah oui. Front National. Oui, ah, c'est une réalité, c'est un fait. Mais le Front National n'est pas le défenseur des pauvres. Ou alors, je sais plus où je suis. Alors que chez Mélenchon,
je suis même pas sur le Front National aujourd'hui.
Il y a une sincérité. Oui, il y a des bobos. Mais il y a une sincérité. Il y a une sincérité vis-à-vis du prolétariat.
Il fait de la part de qui doute, Tillinac.
Chez Mélenchon.
Non.
Pas plus que.
J'ai du
sinoche.
J'ai du
sinoche.
Vous avez provoqué.
C'est le Kino Panorama.
Allez, à tout de suite sur les vaccins.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Florence Cohen.
Et ce soir, Denis Tillinac, Virginie Leguet, Yvan Levaille, les anti-vaccins partent en croisade. Une centaine de familles lancent une action judiciaire groupée contre 4 laboratoires pharmaceutiques. En cause, le projet du gouvernement de rendre obligatoire 11 vaccins pour les nourrissons contre 3 aujourd'hui. Des vaccins que les plaignants accusent de créer un terrain favorable à l'autisme. Vous avez entendu dans le journal de 19h, voilà un médecin qui confirme combien ces vaccins sont importants. La démarche des anti-vaccins, elle est pour vous irresponsable, ou bien on peut se poser la question du trop-plein de vaccins obligatoires et de leur innocuité, Denis Tillinac.
Voir de la pression des lobbies pharmaceutiques. La pression des lobbies. Genre, on veut dire qu'on n'en sait rien. Société, on nous oblige à faire de plus en plus de choses.
D'accord, donc on a couru derrière les labos.
Une ceinture de sécurité, il ne faut plus fumer, il ne faut plus boire, il faut prendre des vaccins. Je veux dire, on devait être prémunis de tout, mais on n'est pas prémunis de la mort, on n'est pas prémunis d'un accident, on n'est pas prémunis du malheur, on n'est pas prémunis de la solitude. Bon, il y en a un peu marre de cette société, maintenant, je dirais. Assurance tout risque, donc c'est un peu comme ça que j'ai dans cette perspective que je vois le truc. Alors, savoir si c'est utile à la santé des bébés ou pas,
je suis pas médecin,
j'en sais rien, mais visiblement, il y a des médecins qui disent oui, d'autres médecins qui disent non, selon qu'ils ont envie de faire plaisir à Macron ou des plaisirs. Donc, j'en sais rien.
Qu'est-ce que vous pensez de la démarche des anti-vaccins, Virginie Leguet?
Moi, je suis très sévère. Les vaccins ont sauvé des milliers de vies.
Oui, bien sûr.
Des milliers de vies.
Pas tous, paraît-il.
Des milliers de vies dans le monde.
Oui.
Des milliers d'enfants, des milliers de personnes. Il y a des tas de maladies qu'on ne voit plus. Mais ce n'est pas parce qu'elles n'existaient plus. On ne les voit plus parce que les gens sont vaccinés. Non, elles existent toujours.
On n'a pas parlé des vaccins existants. Là, on parle des nouveaux.
Non, je dis que les maladies qu'on ne voit plus existent et qu'on ne les voit pas parce que les gens ont été vaccinés. Bon, aujourd'hui, il y a 3 vaccins obligatoires. Ils voudraient le passer à 8. Les 8, moi, ça ne me gêne pas. En plus...
Il y en aura 20 demain. Après, il y en aura 20, puis 30.
En plus, si j'entends bien tous ceux qui disent les vaccins, c'est extrêmement dangereux, ils n'apportent jamais aucune preuve. Ils disent, c'est peut-être lié. On pense que c'est lié. Et là, j'ai lu un interview d'un professeur qui s'appelle le professeur Henri Joyeux, qui visiblement
c'est
est le
porte-drapeau des anti-vaccins.
Voilà. Et lui, bah, il a quand même eu des petits pépins. Il a été suspendu par le Conseil de l'Ordre des médecins. Parce que
il a été créé par Pétain, le Conseil.
Non, mais on peut dire ce qu'on veut.
Vraiment pas un critère.
On peut dire ce qu'on veut. Mais moi, franchement, je trouve qu'il y a, là, pour le coup, il y a un peu une lutte des obscurantistes, de ceux qui disent qu'il ne faut pas toucher à la vie, les vaccins, c'est très dangereux. Ouais. Mais ça n'a jamais été prouvé, les contre-indications des vaccins. Il n'y a jamais eu de lien avéré entre tel vaccin et telle maladie. Ce n'est pas vrai. C'est un truc qu'on répète. Et à force de le répéter, ça finit par devenir. On pense que ça finit par devenir vrai. Mais c'est pas vrai, c'est pas avéré.
Ça, on peut pas le savoir. On parle
mais si,
ceux
y a
qui
eu des
sont
études.
Existants.
Il y a eu des études qui ont été faites.
Elles sont controversées.
Bah, pas toutes, non.
Bon,
non.
Sachant qu'en l'occurrence, dans bien des cas,
imposer,
c'est
plus.
Non plus.
Petite précision, dans bien des cas, c'est pas le produit vaccin lui-même qui est incriminé, mais l'adjuvant, l'aluminium, bien sûr.
Exactement.
C'est précisément le combat
d'ailleurs
du professeur
supprimé
Joyeux.
Dans un certain nombre de vaccins.
Voilà, Yvan Levaille.
Oui, bah, Virginie Leguet a raison. On ne voit plus de polio.
Oui, mais c'est...
On ne voit
d'accord,
plus...
Pas...
Oui, des poliomyélites, c'était terrible.
La diphtérie, la coqueluche, la rougeole.
La coqueluche, la rougeole.
Quelles sont les nouvelles maladies contre lesquelles sont censées lutter les nouveaux vaccins?
Je suis d'accord.
Les
mais
nouveaux,
il faut faire attention. Il faut faire attention. On vit une époque où le scientisme est condamné et condamnable.
Ah,
moi, je trouve que...
Je
tiens compte de ce que réalisent les médecins. Et récemment, ils ont trouvé quelque chose, ça n'intéresse pas les médias, mais Ebola, il n'y a pas eu si longtemps, hein,
ouais.
Ebola en Guinée. Ebola a été vaincu en laboratoire.
Ouais.
Et pourquoi c'était la Guinée? Parce qu'ils étaient pauvres, ils ne pouvaient pas s'acheter le vaccin en question. Hein. Donc, il a fallu qu'on fasse pression pour le leur donner, d'une certaine manière. Alors oui, les laboratoires, on n'est pas obligé de s'agenouiller devant eux. Tilinac a raison. Mais... il y a des gens actuellement, pendant qu'on parle, nous, il y a des gens qui, dans les laboratoires, se donnent un mal de chien pour trouver un vaccin contre le sida. C'est pas sûr qu'ils le trouvent, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pas sûr qu'il y ait un vaccin pour le sida. Et puis, il y a des gens qui, d'un seul coup, se disent, tiens, on pourrait râler, gueuler contre quoi? En réalité, ils utilisent une statistique. Les médecins honnêtes disent, oui, c'est vrai, tel vaccin, il y a 1%, il arrive que... un vaccin déclenche la mort du vacciné. Et alors on dit, ah bah oui, alors vous avez vu...
On va l'interdire pour les 99%.
On va l'interdire pour les autres. Mais les autres, ils sont en bonne santé grâce à ça. Voilà.
Ils sont sauvés, mais
raisonnement spécieux.
On ne parle pas des vaccins existants, donc je suis tout à fait d'accord avec vous. On parle de 8 nouveaux vaccins qu'on décrète que c'est vraiment nécessaire. Pourquoi on ne nous a pas parlé avant?
Alors, ils sont pas nouveaux.
Ils sont
déjà couplés à d'autres, en réalité.
Ils existaient déjà.
C'est au pédiatre de décider, actuellement.
C'était au pédiatre de décider. Tout d'un coup, c'est plus au pédiatre de décider, c'est à la majorité de Macron à l'Assemblée.
J'ai lu une phrase de l'OMS.
J'ai plus confiance en pédiatre qu'à la majorité de Macron à l'Assemblée.
On peut peut-être contester ce que dit l'OMS, mais l'OMS dit vaccination permet d'éviter 2 à 3 millions de décès dus à la diphtérie, au tétanos, à la coqueluche et à la rougeole chaque année dans le monde.
C'est vrai, mais c'est fait.
Chaque année dans le monde.
Ça y est, on est vacciné contre ça, c'est bien.
Allez, on en termine là. Sur ce sujet, on va passer au cinquième et dernier sujet de ce soir. Il ronchonne de l'éthylénax, c'est affolant. Allez, j'y vais. Un CAP, petite enfance pour les mères au foyer qui ont eu des enfants.
Je ronchonnerai pas, je rigolerai là.
Stop, laissez-moi.
Comme guignolade.
Je peux en placer une.
Pardon.
Donc, un CAP, petite enfance pour les mamans qui ont eu des enfants tôt. La secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, y réfléchit. Son projet est créer un dispositif de validation des acquis de l'expérience, ça s'appelle comme ça, pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes mères sorties tôt du système scolaire. Ça concernerait 6 000 personnes. personnes. Les professionnels de la petite enfance sont très en colère. Ils dénoncent une dévalorisation de leur métier et un diplôme bradé. Alors, c'est vrai que c'est donné un diplôme quasiment sans raison ou presque, ou bien vous y voyez un certain fondement, Madame Virginie Le Guay ?
Je crois qu'elle a lancé une piste et elle a tout de suite dit c'est une piste, c'est à l'étude, on réfléchit, on veut savoir si on peut donner un CAP à des jeunes mères qui n'ont pas accès au marché du travail ou au marché de l'emploi et qui pourraient ainsi avoir quelque chose de qualifiant. Et puis après, j'ai lu des tas de tweets, dont certains étaient tout à fait drôles d'ailleurs, qui disaient si c'est comme ça, alors si on peut donner aussi le diplôme des choses vécues, on pourrait donner, si on est chef scout, on pourrait avoir le CAP de manager. Voilà, donc les gens se bidonnent un peu. Je suis pas sûre qu'il faille prendre ça très au sérieux. Je pense qu'elle a, comme souvent d'ailleurs avec elle, elle a lancé ça un peu en l'air. Ça n'a probablement, à mon avis, pas beaucoup de chances de voir le jour. Voilà, et d'ailleurs, elle a assez vite rétro-pédalé.
Ça dénote pas quand même quelque chose à un moment où on vous parle beaucoup de diplômes bradés, d'assistanat. Je me fais là l'avocat du diable, mais je vous écoute là-dessus, Denis Tillinac.
Oui, vous avez tout dit.
Non, je voudrais que vous me répondiez.
Moi, je souhaiterais qu'à la naissance, un enfant ait un titre nobiliaire, un diplôme de... le bac, un diplôme de normal sup et de l'ENA, non, parce que ça finit par...
Un diplôme de bébé.
Un diplôme de bébé. Non, parce que... À supposer que c'est un sens, il faudrait encore s'assurer que les mères en question auxquelles on va délivrer un diplôme aient été des bonnes mamans. Qu'elles aient été bonnes, on n'en sait rien.
Et quels sont les critères?
On valide les acquis
et quels critères, voilà.
Donc, on est tous des mauvais parents.
Tout ça, c'est des généraux.
Bon, c'est souhaitable.
On est en début de mandature et ils font des conneries.
On lance des
ils
ne
sont pas les premiers.
Bon, allez. Yvon Levaille, vous êtes aussi catégorique que le monsieur d'en face ?
Non. Moi, je vais vous dire, quand j'ai entendu...
Lui qui a été un bon papa.
Quand j'ai entendu
qu'un père exemplaire, j'en suis
on
sûr.
On évoquait cette possibilité de donner un diplôme
un
et une
CAP.
Fonction...
Un
CAP aux femmes, aux jeunes mères qui ont eu un enfant tôt... Je me suis dit, attention, il faut faire attention à la radio, parce que si on écoute d'une manière un peu distraite, on croit que donner un CAP aux jeunes mères qui ont eu des éléphantaux.
Voilà, ça c'est fait. Bon. Au-delà de la boutade.
Faut faire gaffe, hein.
Au-delà de la boutade, Yvon Levaille, on brade pas, ça sert à quelque chose, c'est une fumisterie, c'est une fantaisie, ça sert à rien.
Non, il faut pas me lancer là-dessus,
si je vous
parce
lance.
Que je vois que dans tous les médias, et là, Tillinac, je suis sûr, il va me rejoindre, et Virginie Le Guay aussi.
Alors, on écoute.
Dans tous les médias, on dit laisser les étudiants choisir, etc., faire les cours, les lycéens, les enfants, les laisser libres, enseigner leurs pédagogues. Et moi, je suis, depuis ma petite enfance, partisan de la sélection.
Bien.
Voilà. Et en disant ça, je sais
on
que...
On a clos le débat.
Ouais. Oui, écoutez, c'est pas possible. Non. C'est pas possible de faire ce qu'on fait aujourd'hui.
Voilà. En tout cas, ça marche pas. De toute évidence,
parce que ça ne marche pas.
Ça marche pas.
La sélection des meilleurs. Moi, écoutez, on n'est pas tous, là, Tillina qui joue au football, moi j'en ai fait aussi. Et on ne vaut pas 58 millions d'euros.
Comme le transfert de Mendy.
On peut le déplorer, d'ailleurs.
Je suis sûre que vous le regrettez beaucoup, tous les deux.
Oui.
Je crois que le CAP Petite Enfance est rhabillé pour l'hiver, donc on va s'en tenir là. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus débattre et d'être venus refaire le monde en ce lundi sur RTL. Et on va saluer nos deux copines de la soirée sur RTL. Bonsoir Christine Haas et bonsoir Laetitia Nallet. Elles sont pas là.
Bonsoir Florence.
Ah, mais si, on n'était pas branchés.
Nous sommes là.
Bah, encore heureux, quel est votre signe? C'est l'émission qui vous attend à partir de
20h30. Exactement.
À tout de suite.
Vous pouvez appeler le 3210, à tout de suite.
On attend vos appels, à tout à l'heure.